Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Franck Thillier, c'est l'auteur de Polar plébiscité à chaque fois. Il revient avec La Faille chez Fleuve, comme toujours. On retrouve Charcot et la lieutenant Hennebel, les héros récurrents de Franck Thillier. Mais cette fois, j'en ai profité pour visiter ses livres à lui. Que lit Franck Thillier ? Réponse. Bonjour Franck Thillier.
Bonjour.
Merci de nous accueillir, pas chez vous, mais chez Sandrine Babu, à la librairie L'Instant, notre Sandrine Babu de l'émission, quoi, qui nous prête la librairie parce que vous n'habitez pas Paris et moi, je ne peux pas aller trop loin. J'ai mon petit budget comme ça, je serais bien allé chez vous, mais je ne peux pas. Donc, vous avez accepté de venir avec vos livres chez Sandrine au cas où il nous manque d'autres classiques. Mais juste avant, est-ce que vous pouvez nous décrire comment c'est rangé chez vous les livres ?
Alors les livres, alors j'en ai beaucoup dans mon bureau, dans l'endroit où je travaille, parce que j'ai un endroit rien qu'à moi, ce qui n'a pas toujours été le cas quand j'ai commencé à écrire. Je partageais un peu la pièce avec, avec la télévision, avec le bureau de ma femme. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai vraiment un endroit où je peux écrire et ma bibliothèque est... Enfin, la majeure partie de ma bibliothèque est tout autour de moi, derrière moi, sur le côté. Parce que c'est vrai que j'aime bien être au contact des livres, les voir quand j'écris, puis toujours me dire... Ça m'arrive de me lever pendant que j'écris, puis d'aller un peu la parcourir. Donc voilà, il y a ce besoin-là. Puis après, j'ai des livres un peu à l'étage aussi, dans des présentoirs que j'ai récupérés dans les librairies. Parce que justement, à l'étage, on trouve... aussi mes propres livres, qui prennent quand même de la place, tous ces exemplaires à la fois traduits dans différentes éditions que je garde précieusement pour mes enfants, en fait, voilà, pour garder une trace aussi de ce que j'ai écrit.
Alors, c'est moins rigolo pour moi parce que je ne peux pas fouiller ou trouver des trucs bizarres et tout, mais à la fois, c'est bien, j'aime bien cet exercice parce que dans ces cas-là, l'auteur arrive avec ses livres et tout à coup, paf, d'un seul coup, j'ai votre portrait, ce qui est un peu ce qu'on essaye de faire dans cette séquence. Oui. Et là, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Il en manque, je vous dirai lesquels.
Ah oui.
Mais... enfin, je vous dirai lesquels selon moi.
Bah oui.
Mais il y a beaucoup de choses très Franck Thilliesque. Il y a Frankenstein, on va en parler. Il y a évidemment Stephen King, on est obligé. Et puis, il y a un livre que je ne connais pas. Mais je crois, vous me l'avez rappelé avant qu'on allume le micro, que vous m'en aviez déjà parlé dans une autre émission où vous étiez venu parler de votre roman, mais on avait parlé de ce livre aussi qui s'appelle Ripley de Ken Grimwood au Seuil. Et Sandrine Babu, quand elle l'a vu, quand vous l'avez sorti, elle a fait « Ah, c'est culte ça !» Vous pouvez nous dire pourquoi vous l'avez pris ?
Mais c'est vrai que j'aime beaucoup en parler parce que les gens, effectivement, ne le connaissent pas. Et moi-même, d'ailleurs, je ne le connaissais pas. En fait, c'est un livre qui m'a été conseillé, offert par un copain qui connaissait mes goûts. Il m'a dit, il faut absolument que tu lises ce livre. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un livre qu'on essaye de transmettre aux personnes qu'on aime et dont on connaît un peu les goûts pour la lecture. Alors, c'est vrai que Ken Grimwood, auteur américain, n'a pas écrit beaucoup de livres. Il est décédé assez jeune. Mais il a écrit ce qu'on peut considérer comme un livre culte du voyage dans le temps, un livre fantastique extraordinaire. Moi qui adore les récits de destinée, de voyage dans le temps, je suis vraiment tombé amoureux de ce livre. Et je trouve que c'est injuste que les gens ne connaissent pas. Donc c'est pour ça que dès que j'en ai l'occasion, j'en parle à tout le monde.
Ripley de Ken Grimwood, c'est quoi en gros le pitch ?
En fait, c'est l'idée que tout auteur adorerait avoir. sur le voyage dans le temps, c'est un homme ordinaire qui... qui est dans son bureau et qui, à l'âge de 44 ans, meurt d'une crise cardiaque. Il est même au téléphone avec sa femme. Il est en train d'avoir la crise cardiaque et il se réveille dans sa chambre d'étudiant à 18 ans en ayant le souvenir de sa vie de 18 ans à 44 ans. Et donc, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, il va revivre cette vie-là jusqu'à ses 44 ans où, à nouveau, il va remourir et se réveiller. Donc, il va comprendre un peu le mécanisme. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il va essayer de choisir la meilleure vie qu'il va estimer être à un moment donné, c'est-à-dire c'est l'histoire de la seconde chance, de se dire la vie que je viens de vivre, elle n'était pas terrible, sa première, il se dit je vais être riche dans cette vie-là, dans cette autre vie, puisque je vais mourir, je vais faire tous les excès possibles et inimaginables. Et c'est génial parce que il y a toute une mécanique aussi dans l'intrigue, c'est remarquablement construit, il y a des gens comme lui, il va se rendre compte qu'il y a des gens comme lui.
Et à chaque fois, il se réveille à 18 ans.
Oui, il se réveille à 18 ans dans la même chambre. C'est un peu
c'est un jour sans fin, mais c'est 26 ans sans fin.
Oui, c'est ça. Version longue, avec quand même cette épreuve de mort à la fin. à l'âge de 44 ans, qui est quand même une douleur. Il sait qu'il va avoir une crise cardiaque. C'est assez terrible de se dire que tout ce qu'on construit, bah, on va devoir, ça va recommencer. Donc il y a l'aspect du perpétuel de se dire, mais quand ce truc va s'arrêter, il y a un aspect un peu de malédiction. Et voilà. Et donc finalement, il y a une vraie morale aussi de se dire, bah, finalement, quelle est la meilleure vie? Est-ce que la meilleure des vies, finalement, c'est pas celle qu'on vit la toute première?
Je ne sais pas quelle année c'est, mais ça fait un peu cette édition-là, en tout cas années 80, avec le portrait de l'auteur. C'est très américain, ça. On voit, il a son menton sur le poing, comme ça. Oui. Et puis, il nous regarde un peu, genre, pardon, j'étais en train d'écrire.
Oui, bah c'est...
Et ça me fait penser aux séries télé aussi de cette époque-là, où on voit le scénariste qui tape à toute vitesse, là, le barbu.
Oui, bah on est encore au temps où on écrivait les livres à la machine à écrire. Ça se passe en 88, donc je pense que c'est sorti juste avant que les ordinateurs arrivent. Et puis voilà, il y a aussi une description de l'Amérique, parce que ça se passe aux États-Unis dans les années 60.
86.
Oui, il est sorti en 86. Donc il y a aussi tout ce portrait de l'Amérique dans cette période-là. Donc c'est vraiment plus qu'un simple roman de fantastique. Enfin, et quand on construit des histoires comme moi, on trouve que le concept est vraiment remarquable et l'idée est géniale. Et donc, dès que j'en ai l'occasion, c'est un roman que j'aime beaucoup partager.
Mais justement, vous avez dit, c'est l'idée qu'un auteur rêve d'avoir. Vous en avez eu plein d'autres.
Oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, le voyage dans le temps, pour un auteur, même si c'est fascinant, on se dit, laisse tomber. Tout a déjà été fait sur Voyage dans le temps.
Oui.
Comment vous faites? Parce que vous avez aussi écrit sur le rêve, sur la mémoire. On pourrait dire aussi que tout a déjà été fait. Qu'est-ce qui fait la différence? À quel moment vous vous dites, oui, ça a déjà été fait, mais moi, je vais le faire de cette manière. C'est un peu différent. Ça ressemble à ci ou pas?
Oui, bah c'est vrai que tous les sujets, depuis les Grecs, la tragédie grecque, et puis même Shakespeare, enfin, tous les grands sujets ont déjà été traités. Et le Voyage dans le temps, c'est arrivé un peu plus tard. Mais c'est vrai que ces grandes idées-là, elles sont... elles ont déjà été traitées. Après, ce qui fait la différence avec un auteur, c'est la manière dont il va se rapproprier le sujet, mais comme un chanteur se rapproprie une grande chanson, et y apporter sa touche, son univers, ses personnages. Évidemment, il y a les personnages, il y a l'époque aussi, c'est-à-dire qu'une histoire de voyage dans le temps, dans les années 1920, on ne la raconterait pas de la même façon aujourd'hui, avec toutes les avancées scientifiques. Donc voilà, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai plus peur, moi, de me lancer dans des... d'écrire des histoires autour, effectivement, de l'amnésie, qui sont quand même, par exemple, des thèmes hyper classiques dans le roman policier, mais je me le rapproprie. Je vais creuser d'autres sujets autour de la mémoire et ça donne des histoires complètement nouvelles et différentes. Et c'est ce qui fait un peu, justement, la marque de mes romans, c'est d'avoir mon univers à moi qui sera différent de celui d'un autre auteur.
Ben justement, vous avez beaucoup écrit sur la mémoire, sur les rêves, sur des états psychiques un peu décalés, de l'auteur ou de celui qui est en train de lire, enfin bref. Mais il n'y a pas Shutter Island.
Ah oui, oui.
Qui est
oui,
pourtant le bouquin là-dessus. Moi, je pensais que c'était votre livre.
Oui, alors c'est vrai.
Shutter Island de Nice Lehane.
Alors, il y a toujours le problème du choix. Hein, c'est-à-dire que quand on a une bibliothèque devant soi qui contient quand même une majeure partie des livres qu'on aime, c'est très difficile de choisir. Bon, j'avais un petit sac, j'en ai ramené quelques-uns. C'est vrai que j'aurais pu prendre Shutter Island qui fait vraiment partie des livres que j'adore parce que j'aime beaucoup l'auteur. Et aussi dans ce récit... qui est un vrai récit d'atmosphère avec des thématiques qui sont des thématiques sur lesquelles j'écris et que j'adore, avec un retournement de situation. Enfin, on trouve vraiment tous les codes, les caractères du thriller, avec cette partie historique, sur cette réflexion sur les camps. Donc oui, j'aurais pu le prendre, mais j'aurais pu en prendre d'autres.
Il aurait pu être là.
Oui, il aurait pu être là. Vraiment, il avait toute sa place, effectivement, parmi cette liste.
Sandrine, est-ce que tu peux me commander le Ken Grimwood replay? Sauf si tu l'as en rayon. Mais... Merci beaucoup, Sandrine. Je le dis en passant, parce que sinon, j'aurais oublié. N'hésitez pas à boire votre café, il va refroidir.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que vous m'avez... Moi, j'ai envie vraiment de feuilleter tous les livres que vous avez amenés, parce que ce sont des... Alors, il y a du poche, voilà, du classique, mais il y a des vieilles éditions aussi. Et puis... On va parler de Frankenstein dans un instant, mais il y a un livre ancien comme ça, et c'est Des souris et des hommes de Steinbeck.
Oui.
Pourquoi ce roman-là, et pourquoi vous l'avez dans cette version bouquiniste, quoi?
Alors, ce livre, il a une vraie histoire, et c'est extraordinaire, parce que c'est un livre qui a été envoyé un jour à ma maison d'édition, donc il me l'a retransféré chez moi. J'ouvre le colis, et je trouve ce livre avec un mot à l'intérieur qui est incroyable. C'est le mot d'une lectrice qui est encore là, hein, je le sors du livre, et qui me dit, voilà, qui sait que ça fait partie de mes livres préférés, qui voulait m'offrir cette, euh, cette édition, alors qui est de 1930, c'est vraiment
de l'époque, quoi.
De l'époque.
Première traduction.
Et voilà, je voulais lui rendre hommage parce qu'en fait, elle m'a envoyé vraiment une belle lettre où elle me dit que mes livres l'ont aidé à se sortir d'une situation difficile dans sa vie. Donc ça, quand on est auteur, c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse avoir. Et elle sait que ce livre, ça fait partie de mes livres préférés. Mais en fait, elle m'a jamais laissé ses coordonnées. En fait, je sais qu'elle s'appelle Isabelle, qu'elle habite. Alors, je cherche la ville à Angers. Angers, donc qui me demande quand est-ce que je vais venir à Angers. Et voilà, donc je voulais lui rendre hommage, lui dire que j'ai bien reçu ce livre et vraiment qu'il m'a ému. Enfin, j'ai vraiment été touché. J'ai toujours eu envie de répondre. Et donc je le fais. Merci de m'en laisser justement l'occasion de lui dire que. Elle m'a touché au même point que mes livres ont pu la toucher elle. Et c'est ce qui me donne toujours un sens, finalement, à ce métier magnifique que je fais.
Magnifique. Isabelle, si vous nous entendez, il faut renvoyer une lettre à l'éditeur pour lui redonner votre adresse, tout simplement, que Franck puisse vous réécrire, quoi.
Oui, et puis je lui dire que je viendrai à Angers. Alors, je suis déjà venu en librairie à Angers. On a dû se manquer, mais je reviendrai en dédicace et j'espère la croiser parce que c'est vrai que ça fait aussi partie de ce qu'apportent les livres. C'est des histoires comme ça qui sont vraiment magnifiques.
Mais alors, Des souris et des hommes. On rappelle, c'est l'histoire de deux types qui cherchent du boulot dans les années de la Grande Dépression. Ils sont embauchés dans un ranch. Il y en a un, c'est Georges, qui est un petit mec trapu, courageux, mais un peu ronchon. Et puis l'autre, c'est Lenny, qui est une sorte de géant qui ne fait pas attention à sa force. Il aime bien les petites souris, par exemple, mais quand il les prend dans ses mains, il les écrase sans faire exprès. C'est un gentil simplet, en fait, quoi, mais adorable. Et il se passe des choses qui font que la gentillesse ne sera pas récompensée et que voilà, c'est
oui,
le méchant gagne, en général.
Exactement. Alors déjà, ce livre prouve que Steinbeck, il est capable d'écrire sur vraiment n'importe quel type d'histoire, avec n'importe quel style. Ce qui me touche dans ce livre, c'est effectivement cette profonde humanité qui se dégage de cette écriture, qui est très, très simple, en fait. D'ailleurs, je pense qu'à l'époque, Steinbeck avait été critiqué pour cette écriture qui n'était pas jugée comme de la belle écriture, qui était vraiment du... Enfin, c'est vraiment du parler, comme on peut en trouver dans les campagnes à cette époque-là. Et ce qu'on recherche d'une lecture, c'est les émotions que va dégager l'histoire. Et moi, quand j'ai lu Des souris et des hommes, il y avait toutes ces émotions incroyables qui sont dégagées et qui font qu'un livre reste dans votre mémoire. Alors, c'est difficile à expliquer. Alors, si, on peut y arriver en disant, ce livre m'a rendu triste, il y a des images qui m'ont marqué. Mais ce livre-là, petit livre, hein, il fait 120, 130 pages.
Peine, ouais.
Deux personnages, on reste avec eux en permanence. Et on devient le personnage. Et c'est la force d'une histoire. Et voilà, j'y pense.
Et la fin est dingue.
Oui,
ça aussi, vous aimez bien.
Mais oui, la fin est dingue. C'est triste. Il y a la méchanceté humaine de ces deux personnes qui finalement ne voulaient rien d'autre qu'avoir mené une vie normale, avoir un petit lopin de terre avec des lapins. Enfin, il y a cette simplicité en fait dans les personnages, qui touche le lecteur que je suis finalement.
Alors encore plus étonnant, vous avez ramené Darwin de l'origine des espèces.
Oui.
Pourquoi dans une vieille édition pareille, bouquiniste,
Flammarion. Ça doit être une édition des années 1920. Pourquoi ? Parce que dans ma bibliothèque, il y a une grande partie des livres qui est consacrée à, on va dire, ce qui m'aide à écrire mes propres histoires, en fait. Je me documente beaucoup pour écrire mes romans, notamment de science. Hein, il y a toujours une thématique scientifique. Et ce livre-là, il est important parce que c'est grâce à lui que j'ai pu écrire mon roman Gattaca, qui parle de l'évolution, de l'ADN, d'où on vient et où on va finalement, c'est-à-dire de comprendre pourquoi l'homme, d'ailleurs toutes les espèces, existent sur Terre. Et moi, je faisais partie de ces gens qui avaient entendu parler de Darwin, de la théorie de l'évolution, de l'origine des espèces, mais sans savoir comment ça fonctionnait. Et ce qui est génial quand on écrit justement des romans et qu'on a du temps pour ça, parce que c'est mon métier, c'est de satisfaire sa propre curiosité aussi dans l'écriture, c'est-à-dire de me dire, mais j'ai du temps pour mon propre livre, d'aller assouvir cette soif de science. Donc ça a été l'occasion de lire ce livre, de découvrir comment ça fonctionnait. C'est fascinant, c'est-à-dire que ce ne sont pas des romans, hein, ce sont des livres de science, de biologie, il y a tout un tas de thématiques et qui nous apprennent des choses sur notre environnement, qui nous apportent des explications de tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est vrai que ça a été un enrichissement très, très fort. Après, la difficulté, quand on lit un livre comme ça, c'est de se dire qu'est-ce que je fais de cette connaissance ? Comment je la retranscris en termes, on va dire, compréhensibles dans une histoire ? Et c'est tout le travail aussi de l'auteur que je suis.
Vous m'avez amené Frankenstein, c'était pour me faire plaisir, pour coller à votre image ou pourquoi ? Frankenstein, c'est Frankenstein ou le Prométhée moderne.
Oui, c'est ça. Et en fait, on oublie souvent la deuxième partie du livre. Frankenstein, bon, je l'ai lu deux fois. En fait, je l'ai lu quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado. Et c'est un roman qui m'avait fait très peur. C'est le monstre. Hein, c'est le roman du monstre qu'on connaît tous, hein, même visuellement, parce qu'il y a eu nombreuses adaptations. Et que j'ai relu dans le cadre de l'écriture de mon nouveau roman, qui, à sa manière, revisite un peu cette volonté de l'homme d'insuffler la vie et de surpasser un peu, quelque part, le dieu créateur. C'est pour ça que, d'où le Prométhée moderne dans Frankenstein, parce que
c'est l'homme qui se prend pour Dieu.
C'est l'homme qui se prend pour Dieu, mais qui est incapable d'assumer, finalement, sa création. Ce qui est fascinant dans l'œuvre de Mary Shelley, c'est que comment ce personnage... D'ailleurs, que les gens confondent souvent avec le monstre, en fait.
Avec le docteur, oui.
Oui, alors que
Frankenstein, c'est le nom du docteur.
C'est le nom du docteur, et les gens pensent que... Parce que c'est rentré dans un univers collectif. Donc, la force de ce livre, voilà, c'est d'être rentré comme ça dans la culture populaire. Et c'est vrai que quand on est auteur, il y a aussi cette interrogation-là, quand j'ai relu le livre, de me dire, mais comment ça a été possible, à un moment donné, que ce livre devienne culte à un point tel qu'aujourd'hui, on parle de Frankenstein, même pour dénommer certaines choses. Et c'est vrai que c'est intéressant de relire aussi des livres. On ne le fait pas souvent parce qu'il y a tellement de livres autour de nous, mais qu'on a lu plus jeune, souvent de la littérature classique d'ailleurs, hein, qu'on a lu à l'école, et qu'on relit avec un regard d'adulte. Et évidemment, les deux regards sont complètement différents.
Et alors, évidemment, Stephen King, oui. Mais vous avez choisi Misery.
Oui, alors pourquoi ? Le huis clos, pour moi, parfait par excellence. Moi, j'adore les huis clos. Je suis fan de ce genre d'histoire. Un lieu, très peu de personnages, une ambiance, enfin, c'est vraiment tout ce qu'on peut rechercher dans l'écriture, et même en tant que lecteur, spectateur. Et Misery, oui, c'est en plus c'est l'histoire d'un écrivain, donc il y a cette résonance aussi par rapport au métier que je fais, donc cet écrivain qui a un accident dans un endroit paumé, qui est mourant, qui se fait récupérer par par une infirmière.
Annie Wilkins,
la terrible, l'abominable Annie. Et en fait, le personnage a eu le malheur de tuer son héroïne, Misery, dans son dernier livre. Et elle s'en remet pas parce que c'est une fan inconditionnelle de cet auteur qui est là devant elle, sur lequel elle a plein pouvoir puisqu'elle elle le soigne, il a la jambe brisée. Et elle va exiger, c'était absolument terrifiant, qu'il fasse revivre cette héroïne qui l'a tuée parce qu'elle ne s'en remet pas, en fait. Donc, c'est le pouvoir aussi que peuvent avoir c'est une réflexion sur le pouvoir que peuvent avoir les personnages qu'on crée, nous, les auteurs, sur les lecteurs. Et c'est vrai que je m'en rends compte aussi, c'est stupéfiant, surprenant, quand je suis sur un salon, dans une librairie, et que des gens viennent me voir et qui me parlent de mes personnages comme si c'était des gens bien réels, en me disant, votre personnage, vous le mettez, Franck Charcot, par exemple, j'espère qu'il va bien. Donc, il parle comme si ce personnage existait. Et je pense toujours à ce livre-là, effectivement, en me disant, il faut que je fasse attention parce que je pourrais tomber sur une mauvaise personne.
Parce que c'est aussi la hantise du romancier. C'est ce que dit un peu Stephen King, c'est-à-dire son lecteur, sa lectrice, en l'occurrence, qui devient complètement barge et qui l'oblige à écrire ce qu'elle a envie qu'il l'écrive. Est-ce que vous avez déjà rencontré des situations comme ça avec des lecteurs un peu borderline?
Alors, des lecteurs borderline, ça m'est arrivé de voir des gens un peu étranges qui viennent, mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde, donc forcément, mais toujours bienveillant. Mais oui, les gens m'influent, moi, en fait, dans mon écriture, parce que j'écoute beaucoup ce qu'ils me disent. Alors, évidemment, il y a les gens qui disent « Ah, mais c'est bien !» Mais ce qui est intéressant, c'est quand les gens viennent vous voir et vous disent ce qui marche moins bien, ce qui leur a moins plu, parce que c'est comme ça qu'on apprend, en se disant pourquoi là ça vous a moins intéressé, et qui aussi vous donne des idées pour vos personnages, en disant là c'était très sombre, votre personnage il va pas bien, on aimerait bien qu'il se passe ceci cela. Et en fait, quelque part, ils sont en train de tracer finalement le destin de mes personnages, Franck Charcot, Lucienne Bell. J'écoute beaucoup ce que me disait Hector, et c'est vrai que ça, au moment où je suis en train de réfléchir au livre, j'ai ces petites voix de lecteurs qui me reviennent en me disant c'est vrai qu'il y en a un tel a eu une bonne idée, pourquoi pas. Donc voilà, je suis très, très ouvert, mais c'est toujours très bienveillant parce que les gens, en général, qui viennent vous voir sont plutôt...
Vous n'avez jamais eu peur ?
Non, non, eu peur, non. Vraiment, j'ai jamais eu peur. C'est...
Surtout que c'est une littérature particulière, donc...
Oui, mais en fait,
On se dit que les tueurs en série doivent lire plutôt ce genre de roman, non ?
Oui, alors, c'est la question qu'on voilà, on se dit forcément, qu'on se pose. Ça peut tomber aussi entre de mauvaises mains. Et puis, c'est vrai qu'on peut apprendre un peu des techniques dans nos livres qui parlent quand même de violence.
Ah oui, vous avez déjà eu peur de ça, en revanche ? De se dire, ah, est-ce que je mets ça parce que ça pourrait donner des idées ou...
Oui, bah, on se pose la question parce qu'on... Il y a ce phénomène de autour de nous de violence qui se développe. Donc on écrit dans des histoires qui sont quand même assez, dans lesquelles on propage un peu de violence hein, par des crimes, puisque ce sont des romans policiers. Mmh. Et donc on se dit, est-ce que nous, en tant qu'auteurs, en écrivant sur la violence, est-ce qu'on contribue à ce phénomène d'amplifier la violence ? Mais finalement, quand on est artiste, écrivain, on va dire notre rôle, c'est de dépeindre le monde dans lequel on vit, comme un peintre le fait dans un musée. Et voilà, donc on décrit notre société. Dans la société, il y a la violence, donc on la décrit dans les livres. Et puis on se dit, effectivement, il y a des grandes séries télévisuelles qui donnent des techniques. Donc on se dit, à partir du moment où c'est devenu public, il n'y a pas de raison qu'on n'écrive pas dessus. Sachant que moi, j'ai quand même beaucoup de discussions avec des policiers qui me donnent des infos, mais qui me disent, ben là, il ne faut pas le dire, là, il faut le dire. Donc je reste très respectueux de ça. Mmh. Et je ne livre vraiment que ce qui est du domaine public, en fait.
Parce que parfois, c'est carrément le roman en entier. Stephen King, justement, il avait écrit un livre qui s'appelle Rage, qui est un super roman, comme toujours, mais qui a été retiré de la vente par Stephen King lui-même parce qu'on l'a retrouvé 3 fois chez des gamins qui venaient de faire une tuerie dans leur lycée. Ah, oui. La première fois, il a dit « Écoutez, c'est pas mes affaires, ça me concerne pas, je vois pas le rapport. » La deuxième fois, pareil. Et la troisième fois, il a dit « Bon, c'est toujours pas, je me sens toujours pas responsable ni rien, mais en revanche... » Mais ça commence à être gênant, oui. Donc je l'enlève.
Mais d'ailleurs, je ne sais pas s'il aime bien qu'on le dise, mais Xavier de Ligonnès avait été vu la dernière
avec
fois.
Avec Bernard Minier, avec Glacé.
Oui,
avec son roman Glacé.
Avec son roman Glacé, la dernière image de Xavier de Ligonnès, Dupont de Ligonnès, qu'on voit, c'est dans un hôtel, on le voit avec le roman Glacé à la main. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, est-ce que cette histoire-là, un peu.
Vous pensez bien que je vais poser la question à Bernard Minier.
Oui,
j'adore cette histoire.
Oui, c'est extraordinaire quand même.
Et vous, ça vous paralyse pas, ça ?
Non, non, c'est. Voilà, on écrit une histoire, après elle appartient au public, et elle peut tomber entre toutes les mains. On le sait, on en a bien conscience. Après, voilà, moi je connais mes limites, je connais les sujets sur lesquels je n'écrirai pas. Ça reste des histoires policières, ça reste de la fiction, de l'imaginaire et un voyage que j'essaye de proposer au lecteur avec les codes du roman policier dans lesquels évidemment il y a des armes du crime, il y a des scènes de crime qu'on décrit puisque c'est aussi cette raison qui fait que les lecteurs aiment cette littérature.
Est-ce que ça vous a pas piqué un peu ? Est-ce que vous étiez pas déçu qu'il n'ait pas plutôt un de vos romans du Pont de Ligonnès ?
Oui, mais j'étais un peu jaloux. Alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise pub. Mais bon, voilà, c'était. Il avait pris le Glacé. Peut-être que hors caméra, il avait d'autres de mes romans. Enfin, il avait certains de mes romans.
Merci beaucoup, Franck Tillier.
Merci, c'était un plaisir.
À bientôt.
À bientôt.